auditeur. Auditeur, auditrice, bonsoir. Nous sommes le lundi 12 septembre 2022, il est 20h, et comme tous les lundis à cette heure-ci, on joue la prolongation.
Alors ça, je n'ai vraiment pas peur de le dire, monsieur Pouce, vous êtes un salaud.
Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver après ce week-end sportif, un week-end un peu tronqué de football, hein, puisqu'on est habitué à en avoir tellement. Et là, bien sûr, en raison de la disparition de la reine d'Angleterre, les matchs qui devaient se jouer en Grande-Bretagne ont été annulés, reportés, donc pas de Premier League, pas de championnat écossais non plus. J'espère que vous avez tous passé une bonne semaine et un bon week-end. Ce soir, à mes côtés... Ah... fidèle au poste, s'il ne devait y en avoir qu'un, il serait celui-là. Il est d'ailleurs celui-là, il est là. C'est le fondateur de l'agence Sportimize, agence spécialisée en conseil, communication et marketing sportif, Alexandre Demeter. Salut Alex, comment vas-tu ?
Salut Sam, ça va super.
Bien.
On n'avait pas les matchs en Angleterre, effectivement, c'est embêtant, mais on a pas se régaler en Belgique.
C'est vrai, on a eu une belle journée de 8e journée de championnat de Jupiler Pro League. Ce sera d'ailleurs notre, c'est à cela qu'on consacrera notre première partie d'émission avant bien sûr de s'intéresser à la Coupe d'Europe, les résultats de la semaine passée et les matchs à venir cette semaine puisque, comme vous le savez, il n'y a pas de relâche pour la Coupe d'Europe en ce début de saison en raison de l'approche de la Coupe du Monde et il faut caler bien sûr tout ça d'ici à la Coupe du Monde qui démarre le 20 novembre. C'est parti, le coup d'envoi, on va parler... Bien sûr, donc de la Jupiler Pro League. Et on va commencer, Alex, si tu le veux bien, par le leader, l'Antwerp, qui continue son sans faute. 8e victoire en autant de matchs, victoire en déplacement sur le terrain du Cercle, 0-2. La différence de niveau s'est fait ressentir. En tout cas, l'Antwerp semble sûr de ses forces et a fait un bon petit match pour l'emporter. Tranquillement, presque.
Comme prévu, j'ai envie de dire. Après, quand on voit le résumé, il ne faut pas oublier, avant que l'Antwerp marque, le Cercle a des occasions aussi.
C'est vrai.
Donc, ce n'était pas gagné d'avance, même si c'était un déplacement on va dire un peu facile, sans manquer de respect au Cercle. Mais c'est comme prévu, on en a parlé la semaine dernière, et je pense que l'Antwerp, jusqu'à la 10e journée, ils doivent presque faire le carton plein, surtout qu'ils n'ont pas la Coupe d'Europe. Ont pris des joueurs comme Alderweireld qui a marqué encore ce week-end. Ce sont des joueurs pour faire la différence et pour apporter leur bagage et leur expérience dans des matchs comme ça et dans des moments clés pour l'Antwerp. Donc je m'attends à ce qu'ils fassent un 30 sur 30. Et après, ça va commencer avec successivement les gros matchs contre Bruges, Genk, la Gantoise, le Standard. C'est 4 matchs en 5 journées, je pense.
Oui, ça va être.
Ça sera autre chose, ça sera plus corsé.
Un beau programme pour eux. C'est vrai que on l'a dit la semaine passée, l'équipe de Marc Van Bommel ne fait pas nécessairement forte impression tout le temps, mais ils font le boulot. Je pense au premier but notamment où c'est une superbe phase de reconversion, une superbe. Ça va très très vite. Le gardien dégage, relance à la main sur le côté. Il y a un débordement, un centre magnifique et Janssen qui marque encore. Il fait d'ailleurs une belle. Quand on voit le plan de l'arrière, on voit qu'il fait une petite feinte. Enfin, il fait mine d'aller au centre pour s'écarter et puis il est pile au bon endroit.
C'est toute son expérience, c'est toute sa qualité, c'est pour ça qu'ils l'ont recruté. Et Marc Overmars le connaît très bien, étant tous les deux bataves. Ça, il fait son travail. Après, la question, l'Antwerp, qui sera le concurrent de l'Antwerp? Je pense que ce sera l'Antwerp lui-même. Parce que ces joueurs, aujourd'hui, ils gagnent, ils ont l'habitude, ils enchaînent des 3 points toutes les semaines, ils ont le maximum des points, on n'a rien à redire. Mais que va-t-il se passer le jour où il y aura une contre-performance?
Oui,
je ne parle pas de Başakşehir en Europe, je parle vraiment en championnat. Si tu enchaînes deux mauvaises performances, qu'est-ce qui va se passer? On se posait la question avec l'Union l'année passée, même si l'Union, c'était déjà plus en dents de scie. C'était 2 victoires, 1 nul, 1 défaite, ou 3 victoires, 2 nuls, 1 défaite, pour rester dans le ratio qu'ils prenaient. Mais ici, avec l'Antwerp, c'est déjà autre chose. Je me souviens de Bruges, début des années 2000. Ils avaient enchaîné 13 victoires d'affilée en championnat. Ils ont perdu un match à Anderlecht. Et c'était la Bérésina le reste de l'année. Donc comment les joueurs vont-ils réagir une fois qu'ils ne seront plus sur leur nuage? Ça sera très intéressant.
Ouais. Alors on peut compter sur... ils pourront compter peut-être sur le plein d'expérience des joueurs, et notamment des joueurs recrutés. J'en veux pour preuve, c'est pas une preuve, mais le deuxième but qui vient d'un corner de Nainggolan, repris de la tête par Alderweireld. On sait pourquoi Alderweireld, qui est très solide en défense, vient aussi apporter son écho offensif, et il a réussi donc à donner la victoire, à donner un peu d'aisance à l'Antwerp, qui du coup ne pouvait plus être rattrapé. Encore un bon match de l'Antwerp, comme tu le dis. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à signaler. Ils ne sont pas éblouissants dans le jeu, mais ils gagnent sans se faire vraiment trop de peur. Comme tu l'as dit, le résumé est intéressant dans ce sens-là. Ils n'ont pas dominé de la tête et des épaules tout le match. Bruges, au contraire, le cercle aurait pu ouvrir la marque, a eu des opportunités. Pour l'instant, tout tourne en leur faveur, côté anversois. Et on sera effectivement attentif à au prochain match, mais tu as raison, c'est à partir de la 10e qu'on va commencer à...
Là, ça va se corser. On peut se poser la question aussi, que se passera-t-il quand l'Antwerp jouera bien?
Ouais.
Parce que là, on a l'aspect psychologique et puis on a l'aspect physique, jeu, tactique. Une fois que tout sera rodé, qu'est-ce que ça va donner?
Est-ce que Van Bommel, c'est un... Pour ceux qui ne connaîtraient pas son style de manager ou d'entraîneur, on se souvient du joueur qui n'était pas un grand poète, on va dire ça comme ça, qui était un joueur dur sur l'homme... On se souvient de beaux échanges bien musclés avec des adversaires. Est-ce que son équipe est capable de produire du beau jeu, du très beau jeu?
C'est un entraîneur hollandais, c'était un milieu défensif. Il a quand même fait une carrière époustouflante. Ouais. PSV, Barcelone, Milan, rien que pour citer ces clubs-là. Il a ce style de jeu hollandais, 4-3-3, offensif en tous les cas. En lui. Maintenant, je ne le connais pas personnellement, mais j'ai entendu des bruits de couloir. Une fois que ça commence à mal tourner, il est assez soupolé. Donc il faut voir comment le groupe pourrait réagir face à ça aussi.
Oui, ce sera un aspect intéressant, la psychologie du groupe, une fois qu'ils seront mis en difficulté et lorsque les premières difficultés, les premiers problèmes surviendront. On laisse l'Antwerp ici, il n'y a pas grand-chose à en dire de plus. 8e victoire, 24 points donc. Le plein. Passons maintenant à l'Union.
Au Dauphin. Ah non, je pensais.
Non.
Il y avait deux Dauphins. Donc...
Il y avait deux Dauphins, mais justement, il y a Genk face à l'Union. L'Union donc recevait Genk. Cruel scénario pour l'Union Saint-Gilloise qui s'est battue. S'est battue fort pour remonter, après avoir encaissé un but, à égaliser. Et malheureusement pour eux, la défaite est survenue dans les arrêts de jeu. Sur un corner bien repris de la tête. Est-ce que dans le jeu, au-delà du score, est-ce que tu penses que l'Union a produit un jeu qui était... ils n'ont juste pas eu de chance et ils n'auraient pas dû perdre, ou est-ce qu'on peut aller plus loin?
Je pense pas que c'est la faute à pas de chance. Je pense qu'il y a une certaine fatigue physique et psychologique aussi. Après le match de jeudi, tu écris l'histoire. C'est quand même la première victoire unioniste en 125 ans en Coupe d'Europe à l'extérieur. Ce n'est pas rien. En plus, à l'Union Berlin, qu'on avait tous dit « Waouh, cette équipe, elle joue très bien au football ». Et Karel Gerhardt, il a réussi tactiquement à les déjouer, mais de A à Z, jeudi, dans la drache berlinoise, on va dire. Et hier, non, je pense que malheureusement, tu joues avec la même formation ou la même équipe ou le même 11 de base. Tu joues tous les 3 jours un autre match. Donc à la fin, tu as un moment de déconcentration, tu as un moment où tu vas te faire avoir. Et c'est bien joué de Genk aussi, qui n'a pas de Coupe d'Europe, qui a fait une très bonne pioche avec Wouter Franken comme coach. Mais donc l'Union va perdre encore des points comme ça en fin de match. Ça, c'est presque une certitude sur les semaines à venir.
Ouais.
Maintenant, Genk fait aussi un super début de championnat. Il ne faut pas oublier que l'année passée, c'était une catastrophe.
Oui, ils avaient mis un temps fou à se mettre en marche. Hein. Ils avaient...
Ici, l'équipe, elle était en place dès la première journée au Club de Bruges. Et je pense, tu as été à l'Union hier ?
Non, j'ai pas pu.
Je pensais que tu avais été.
Non, j'ai pas pu. Mais
voilà, c'est pour ça.
Voilà, c'est sans doute, c'est sans doute ça. Mais effectivement, ils ont une équipe qui joue bien. Tu as souligné un point important. Je voulais y revenir plus tard, mais allons-y tout de suite. L'écho que puise la Coupe d'Europe pour les clubs qui y participent. Il y a eu 4 clubs belges qui ont joué la semaine passée. 2 ont perdu. L'Union à domicile. Alors certes, c'était face à Genk, mais c'était à domicile. Et Anderlecht, on y reviendra, battu à Westerlo. J'ai l'impression que cette année, encore plus que les années précédentes, le calendrier va être une variable hyper importante. Et c'est pas finalement pas si étonnant qu'aux premières places du championnat, on trouve l'Antwerp et Genk qui n'ont pas de Coupe d'Europe. Alors je tire des conclusions peut-être un petit peu hâtives parce qu'il n'y a eu qu'une seule journée de Coupe d'Europe, mais bon, ça va aller en s'intensifiant. Et Bruges, dont on sait que le club de Bruges a un noyau et un groupe suffisamment étoffé pour pouvoir sans doute faire les changements qu'il faut et donc ne pas avoir à puiser dans trop dans ses forces dans les matchs qui suivent, les matchs de Coupe d'Europe. C'est vrai que l'Union, pour revenir au match de l'Union, il y a eu des moments dans le match où on a senti effectivement qu'ils étaient sans doute un petit peu usés ça manque un petit peu de précision, il manque un petit détail par-ci par-là et ça fait au bout du compte une différence.
Oui, mais la plupart des gens voient un match de Coupe d'Europe, oui, mais ce n'est qu'un match en plus parmi tant d'autres, mais il ne faut pas oublier tout l'aspect préparatoire qui a ça aussi. Et pour les joueurs, psychologiquement, tu joues un match le dimanche, tu entraînes, tu as off dans le meilleur des cas tout le lundi, ou bien tu as entraînement en fin de journée, le mardi tu as l'entraînement, le mercredi tu pars généralement tôt le matin comme Bruges ce matin vers Porto, tu arrives sur place, tu as le temps de déjeuner, de te reposer un petit peu, tu as entraînement. Le lendemain, on reprend la même, on recommence, sauf qu'il y a match. Tu rentres la nuit généralement ou tôt le lendemain matin, tu as peut-être un moment de repos la journée, le lendemain tu recommences à t'entraîner. Tu n'as jamais ce moment de repos pendant 3 semaines d'affilée, presque, tu as peut-être 2 jours de congé.
Oui, et puis c'est...
Pour la plupart des gens, on dit oui, mais c'est des footballeurs, oui, mais ça pèse physiquement, psychologiquement, sur la vie de famille aussi. Donc tu ne sais pas être pumped up comme tu peux l'être en championnat ou comme tu l'es l'année passée étant l'Union, d'avoir une semaine et un rythme plus facile. Sans ces matchs-là.
Oui, comme tu...
C'est pas le match en lui-même.
C'est ça, comme tu le dis, c'est pas le match les 90 minutes
beaucoup. Non, c'est pas les 90 minutes. Les joueurs, ils préfèrent 1000 fois jouer 90 minutes qu'avoir entraînement. C'est clair.
C'est tout ce qu'il y a autour qui
pèse beaucoup.
Et même si le voyage n'est pas très long, c'est quand même un voyage. Il faut y aller. Ça change dans. Ça met un terme. Ça coupe la routine habituelle et ça empêche. Ça met les joueurs dans d'autres dispositions. Et comme tu le dis, pour quand ils reviennent, effectivement, c'est plus facile quand on a gagné peut-être. Mais il y a la fatigue d'un match de haut niveau, la fatigue du voyage et se remettre dans le rythme. Et psychologiquement aussi, se remettre dedans pour pouvoir gagner.
Quand tu gagnes, tu as ce boost en plus. Ce que tu peux après peut-être prêcher en dynamisme ou être en excès de confiance par rapport au match qui suit aussi. Ça, c'est toujours le revers de la médaille de la Coupe d'Europe. Ouais. Après, je pense que l'Union n'a pas eu ça. Bruges non plus, malgré un très gros match contre Leverkusen. Mais après, il y a le Money Time qui arrivera en Coupe d'Europe d'ici quelques semaines. Et ça sera intéressant. Qui va se qualifier, où et pourquoi.
Ouais,
et à ce moment-là, ça coûtera indéniablement des points en championnat, même à Bruges.
Oui, ouais, c'est là que la différence se fera sans doute, peut-être avec les joueurs, les équipes qui, elles, auront moins à puiser. Puisque tu parles de Bruges, allons-y. Le champion en titre qui jouait...
Où est Didier ?
Où est Didier ? Oui. Il n'est pas là aujourd'hui. Tu vas te faire le représentant, le digne représentant des Brugeois qui, donc, samedi, l'ont emporté 0-2 à Serein. Avec des buts de Larine, le Canadien, qui est arrivé cette saison. Et de Hans Van Aken, bien sûr, Monsieur Van Aken.
Son centième but.
C'était son centième but. Il a bien fait de rester, ne serait-ce que pour ça. Je pense qu'il ne le regrette pas trop. Le match était plutôt à sens unique, en tout cas possession de balles, une différence assez rare, 77% contre 23%, c'est assez rare.
Après, Serein avec un but, c'était défendre, il gardait le zéro.
C'est ça, une fois que ils ont presque réussi leur coup, en tout cas une mi-temps. Et puis,
après, je trouvais le club très 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 mature dans son approche. Donc certes, ça ressemblait à du handball par moment, parce que Bruges avait le ballon et ça tournait autour, du rectangle. Mais Bruges s'est montré très mature et très patient aussi. On cadenasse derrière, on cherche l'homme libre, et il y a un moment où un joueur sérésien va mordre à l'hameçon, on aura de l'espace et on va marquer. Et c'est ce qui s'est passé deux fois sur les deux buts.
Ça avait tourné en défense. Boyata fait son apparition, associé à Mekele en défense centrale. Voilà encore donc Boyata, un joueur qui est venu pour se relancer en vue de la Coupe du Monde. Qu'est-ce que tu as pensé de son match ?
Il a fait de très bonnes passes en avant, parce qu'il n'a rien à faire défensivement.
C'est ça. Bon, bah oui, au moins, il a bien fait ce qu'il avait à faire.
Non, sans plaisanter, on ne sait pas juger la défense brugeoise face à Serein, avec tout le respect qu'on a pour Serein. La volonté était de défendre à 10, plus le gardien.
Oui, c'était...
Il n'y a même pas eu... Je n'arrive pas à me souvenir d'une contre-attaque très très dangereuse, à part Bernier qui a eu un moment en première mi-temps le ballon mais qui a trébuché tout seul. Il n'y a pas vraiment eu d'intervention défensive de la part des Brugeois.
Ouais. Et toujours Nielsen qui joue comme on l'a dit la semaine passée. On a l'impression qu'il est là depuis toujours. Et puis il a ses qualités de footballeur qui sont qu'il exprime toujours très bien, et en plus il a un charisme, je pense, et il amène aussi pas mal ses coéquipiers avec lui. Il est toujours très volontaire. Yaremchuk aussi était aligné au départ. Il y avait pas mal de changements. C'est là où je disais que le club de Bruges a un avantage sur les autres. Enfin, quand je parle d'un avantage, ils le doivent à eux-mêmes. Mais voilà, quand vous permettez, après le début de championnat qui a été le vôtre, de mettre des joueurs comme Skov Olsen, Jugla sur le banc, et que vous ne perdez pas au change, que vous avez Noah Leng qui est toujours blessé, ça fait. C'est impressionnant quand même. L'attaque, c'était donc Larine, Yaremchuk et Nouza. C'était une attaque totalement différente de celle qu'on avait eue précédemment.
Nusa a énormément de talent. C'est un jeune Norvégien d'origine nigérienne qui est un très très bon joueur de flanc, mais qui n'a pas su se prouver fatalement face à un double rideau défensif liégeois. Mais ce joueur, j'en attends beaucoup personnellement. Et quand il est monté face à Leverkusen, il a aussi montré de belles choses la semaine dernière.
Ouais. Pour l'instant, le club de Bruges, selon toi, est dans les clous et dans le rythme et dans les temps de passage, je dirais plutôt, compte tenu de ce qui est compte tenu de la Coupe d'Europe.
Il faut pas oublier le passage à vide face à Waregem et Eupen, où le club a pris 1-6, et c'était, je pense, les deux adversaires les plus faciles qu'ils ont rencontrés cette saison. Mais je pense que Oefkens et son groupe, ils se sont réinventés, ils se sont dit ce qu'ils avaient à dire, et depuis lors, le club fait un parcours parfait.
Oui.
À voir demain soir à Porto.
Voilà.
Ça sera une autre paire de manches. Mais le club est sur les rails en championnat et il y a un retard face à l'Antwerp qui ne doit pas devenir trop, trop grand non plus.
Oui, c'est vrai qu'on en est. Il y a 5 points d'écart, il me semble.
2,5.
2,5, oui. Passons maintenant aux deux couleurs qui animent bien souvent cette émission. Je vous propose qu'on commence par le mauve. Bien sûr, Anderlecht qui se déplaçait à Westerlo, c'était pas non plus a priori le match le plus compliqué qu'on s'attendait à voir pour les Anderlechtois, en tout cas. Non, c'est sans manquer non plus de respect à Westerlo, mais un Anderlecht qui avait paru lancé il y a quelques semaines, qui a trébuché un peu et là qui perd. Défaite 2-1, un but rapidement encaissé. Ils se sont battus, c'est un peu sur le même scénario, mais vraiment assez différent dans le contenu du match que l'Union. Ils ont pris un but tôt, ils ont égalisé et ils ont pris un but à la fin. Par contre, dans le jeu, autant à l'Union, on pouvait y voir un peu de fatigue, un peu de, un peu de d'usure. Anderlecht, je suis pas certain que ce soit ça. Enfin, en tout cas, je les ai trouvés apathiques, pas très.
Je pense que c'est mental, voilà. De nouveau. Parce que ces joueurs ont tous le talent pour évoluer en D1. Après, il y a le mental qui doit suivre. Et ce qui est très difficile, je pense aussi, après un Vincent Kompany qui avait des règles très strictes en interne et qui voyait comment ça se déroule à Manchester City ou dans d'autres grands clubs en Europe, il a voulu inculquer cette même méthodologie à Anderlecht avec certes beaucoup moins de moyens. Donc, ce n'était pas forcément possible. Donc, je pense que les joueurs qu'il a eus sous son aile pendant certains même des années, il y a un relâchement.
Oui, la personnalité, le style de coaching de Mazzu.
Ça arrive dans beaucoup de clubs que tu as une certaine conjoncture d'entraîneurs avec des entraîneurs qui sont très stricts, très, très rigoureux. Je pense à Bologna, je pense à Mourinho. Mais il y a d'autres entraîneurs qui ont l'air un peu plus cool et plus sympas, comme Guardiola Company, qui sont tout aussi stricts. Une fois que tu es après ça, tu as un relâchement. C'est un peu comme quand on était à l'école avant. Tu avais l'institutrice que tu n'avais pas envie d'embêter et qui te donnait des punitions si tu regardais, si tu ne regardais pas devant toi. Et après, tu avais quelqu'un qui était beaucoup plus relax et là, c'était la foire. Et c'est un peu la même chose avec les entraîneurs dans le foot.
Et donc là, on le constate aussi que Felice Mazzu n'est sans doute pas fait... Il n'a pas les mêmes convictions que Vincent Kompany, c'est pas les mêmes ressorts sur lesquels il joue.
C'est pas une conviction, c'est une autre approche. Une approche plus participative, c'est une approche où les joueurs ont leur responsabilité.
Ils sont plus responsabilisés.
Ils sont responsabilisés, ils ont leur responsabilité et on ne va pas leur répéter toutes les semaines ce qu'ils doivent faire. On travaille en équipe. Tactiquement, on a établi le schéma, le plan de jeu, et chaque semaine, on va travailler sur ce plan de jeu, et on doit être concentré, on doit avoir ce focus et cette envie, mais il y en a beaucoup qui sont encore très très jeunes aussi, qui ont certes beaucoup de talent, mais qui doivent apprendre à adopter cette méthodologie et cette rigueur de travail.
Ouais.
Je pense que le problème se situe là, à Anderlecht. Pas nécessairement dans l'approche, dans la tactique ou quoi que ce soit, parce que je pense que Felice et son staff, ils n'ont rien à prouver en Belgique, après tout ce qu'ils ont déjà fait. C'est surtout la psychologie des jeunes, et les jeunes doivent se dire, on a un capitaine, je parle du coach, suivons-le, travaillons avec lui.
Ouais, ça c'est le... Est-ce que c'est une... C'est un point de... Un levier qu'a Felice Mazzu, c'est-à-dire quand il a une équipe, comme ça a été le cas à l'Union, qui est prête au sacrifice ultime, qui est prête à mourir pour lui, il peut les emmener très 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 haut. Il faut que tous les joueurs adhèrent pour que ça puisse fonctionner ailleurs. Et effectivement, ce que tu dis, et ça, je suis assez d'accord avec toi sur ce que je vois, il n'y a peut-être pas conviction, enfin les joueurs ont peut-être pas ils mettent pas l'intensité qu'il faudrait tout le temps.
Mais ça ne se fait pas non plus en 3 semaines de temps. C'est vraiment un travail de longue haleine et au plus jeune que sont les joueurs, au plus longtemps que ça va durer aussi. Donc c'est vraiment un travail sur du long terme qui doit se faire. Et alors malheureusement maintenant, effectivement, tu joues à Westerlo, c'est la bête noire d'Anderlecht.
Oui.
Depuis les années 2000, 24 où Anderlecht s'est pris des 6-0, des 5-0, le 5-0 c'était censé être le match du titre pour Anderlecht, ils devaient gagner, ils se prennent un 5-0.
Ouais,
et par la suite, quand Westerlo était en division 2 en coupe, ils ont perdu, il y a eu un tas de défaites à Westerlo, et je pense qu'Anderlecht, même si 100% du personnel est autre aujourd'hui, Il y a toujours cette perception, on va à Westerlo, pardon, c'est très compliqué pour Anderlecht. Et ce l'est encore, ils vont là, ils tremblent.
C'est marrant, restons un instant là-dessus, il y a eu la même chose pendant des années. Si Blaise était là, il pourrait en parler en France, avec
Bordeaux-Marseille.
Et effectivement, j'ai toujours été épaté du fait que, comme tu le dis, le personnel change, il n'y a plus personne qui a vécu tout ça, mais pour autant... les Marseillais n'ont pas réussi à gagner pendant près de 40 ans, je crois.
40 ans. Mais Bruges a eu la même chose à Anderlecht. Ils avaient une victoire en 98. C'est jusqu'en 2017, ils n'ont pas gagné à Anderlecht.
Et oui, la psychologie, ça joue. Et du coup, quand on pense à ça, on comprend peut-être aussi un peu mieux pourquoi le Real Madrid ne perd pas ses matchs de Coupe d'Europe quand il est sur le fil. Les joueurs ont beau ne pas être ceux qui ont gagné les titres les années d'avant, nécessairement. Il y a il y a cet ADN du club, ou en tout cas, il y a cette force qui leur permet de se sortir du guêpier. Et donc, là, pareil, il doit y avoir psychologiquement une petite force supplémentaire pour Westerlo face à Anderlecht. Les Anderlechtois, du coup, pour l'instant, c'est assez compliqué pour eux. Au niveau du classement, ils sont 9e. Et surtout, ils n'ont pas gagné depuis 4 matchs. Ils ont pris 1 point sur 12. Sur les 4 derniers matchs, c'est problématique. Là, ça devient problématique. D'autant qu'ils sont... Et on va faire notre mea culpa, hein. On s'est moqué gentiment, Steve, si tu nous écoutes, on s'est moqué gentiment du fait que le Standard était un peu à la traîne. Et bien là, les Anderlechtois sont carrément de 3 points derrière le Standard, 9e, le Standard lui est 6e. Et bien donc, passons au Standard. Le Standard, je ne sais pas quoi dire.
Parce que service minimum.
Service minimum, mais 3 victoires de suite. 3 victoires de suite, ils ont fait... ils ont eu la réussite un petit peu là, hein, sur les buts. Ils ont la réussite qui les avait peut-être fui aussi un peu avant. Et toujours est-il qu'ils reviennent donc à 3 victoires de suite. C'est une belle performance. Je ne sais pas depuis combien de temps ils n'ont pas enchaîné 3 victoires.
Très longtemps, mais là tu vois une rigueur de travail justement. Ouais. Ils font confiance à leur coach, qui est un motivateur. Et ils s'assurent du service minimum. Tout ce qu'ils veulent, c'est prendre des points. Et c'est tout ce qu'ils ont besoin aussi pour avoir les supporters derrière le projet ou derrière le nouveau projet. Ouais, ils prennent des points, ils ne seront pas européens, je pense que tout le monde en est conscient, mais ils gagnent des matchs qu'ils n'auraient peut-être pas gagné l'année passée. Ouais. Et ça, c'est essentiel pour les supporters, pour le club et surtout pour les repreneurs qui ont besoin de ces victoires, qui ont besoin de ces points pour vivre une saison tranquille et travailler en coulisses.
C'est vrai, et les joueurs... Il y a eu quelques bonnes performances. Balikwisha a pas mal joué. Raskin était de retour et a plutôt bien joué aussi. Tout n'a pas été parfait, mais ils ont réussi à l'emporter. Et donc là, c'est quand même... quand je dis qu'on fait notre mea culpa, c'est vrai qu'on s'était demandé jusqu'où allait descendre le Standard. Et bien, ils sont descendus jusqu'au moment où ils ont remonté. Voilà, 3 victoires... C'est la poussée d'Archimède.
En même temps, il s'est appelé beaucoup plus bas.
Non, c'est ça. Mais 3 victoires de suite, c'est beau pour des joueurs qui, bien entendu, ne jouent pas de Coupe d'Europe cette année. Et c'est là-dessus qu'on va terminer sur la partie belge. C'est vrai que...
Encore une toute petite brève, peut-être ouais. OHL.
Oui.
Qui fait un super début de saison.
Ouais.
C'est incroyable, mais ils sont 4e, ils ont 16 points. Donc c'est à peine 3 points de moins que le club de Bruges, mais c'est plus que la Gantoise, que l'Union, que le Standard, qu'Anderlecht, que tout le monde. Donc Marc Bresse, l'année passée, a aussi connu une saison très difficile.
Ouais.
Et cette année, avec quasiment un groupe similaire, mais une bonne préparation, des bonnes bases, ils arrivent à faire des prouesses et être 4e. Donc c'est pas mal. Ils ne vont pas rester toute la saison, à mon avis, mais,
oui, ils sont,
ça
ils
a
sont...
le mérite d'être souligné.
Exactement. Ils l'ont remporté 3-2 face à Charleroi. Et quand on regarde le classement, donc, ce qu'on disait, dans les 4 premiers, les 4 qui joueraient actuellement le Playoff Champions, seul le club de Bruges joue la Coupe d'Europe. La Gantoise est 5e. Quant à Anderlecht, l'Union, 7e et Anderlecht, 9e. Il va falloir s'attendre à ce que les matchs de Coupe d'Europe en milieu de semaine coûtent des points en championnat. Cette année, les joueurs vont peut-être pas, les supporters vont peut-être pas se plaindre qu'on divise les points par deux si on est un peu trop loin des leaders qui eux n'auront pas joué la coupe d'Europe. Ça t'es toujours pas pour, hein, le partage des points en deux.
J'ai jamais été pour, mais je comprends le besoin économique des playoffs. Par contre, je l'ai déjà dit, c'est une aberration qui coûte beaucoup plus cher au club qu'autre chose. Et je m'explique, il y a la Coupe d'Europe, certes, mais il y a des clubs qui jouent toute une saison pour être en Coupe d'Europe et après ne rien faire.
Ouais.
Je pense à la Gantoise l'année passée, par exemple, c'était pire que scandaleux.
Ouais, ouais.
Il y a d'autres clubs qui ont les infrastructures, mais qui n'y participent pas. Et alors, il y a des clubs qui commencent une saison en se disant « Mais c'est pas grave, on peut jouer comme des pieds, on aura les play-offs ». Et pendant ce temps, ils jouent comme des pieds, mais ils ne savent pas renverser la vapeur en Coupe d'Europe non plus. Donc tu perds des points, tu perds de l'argent, et finalement tu prends des risques. Donc Je comprends l'aspect économique, mais je ne comprends pas cette aberration encore qu'on garde un système aussi débile que des play-offs et des divisions de points dans tous les sens.
Oui, il y a un pays qui a le même système, mais qui ne divise pas les points en deux. C'est Israël, justement, où il y a une phase régulière, puis des play-offs. Tu auras remarqué l'habile transition pour parler de Coupe d'Europe et du Maccabi Haïfa. Le Maccabi Haïfa qui va jouer mercredi face au Paris Saint-Germain à Haïfa. C'est le retour de la Coupe aux grandes oreilles à Haïfa après pas mal d'années. C'est donc le PSG de Messi, Neymar, Mbappé qui est en déplacement. On a appris aujourd'hui que les supporters, les ultras parisiens, ne viendraient pas, boycott, soi-disant, enfin pour... parce que les conditions d'entrée et les conditions sanitaires seraient trop dures en Israël. Bon ben, le PSG ne pourra pas compter sur eux. En revanche, il pourra compter sur ses supporters locaux, puisque il y a pas mal de supporters locaux. Et on est avec l'un d'entre eux au téléphone, Philippe Louisada. Bonjour.
Bonjour.
Voilà, un supporter du Paris Saint-Germain. Et merci de nous répondre. Philippe, vous habitez Tel Aviv, mais vous serez mercredi à Haïfa pour le match qui opposera le Maccabi au Paris Saint-Germain.
Ah, évidemment, comment louper une telle confrontation en Ligue des Champions ? Donc, en tant que franco-israélien, voir le PSG en Israël, c'est magique.
C'est magique, oui. Comment est l'ambiance ? On imagine que, je ne parle pas forcément des francophones, mais j'imagine qu'il y a une excitation du côté des supporters de Haïfa, du côté d'un peu tout le monde, de voir la Ligue des Champions revenir. Et puis voilà, elle revient avec Messi, Neymar, Mbappé. Comment est l'ambiance actuellement en Israël à l'approche de ce match ?
Bah, il y a un engouement qui est assez incroyable autour de ce match. Alors les Israéliens, il n'y a pas si longtemps, ont vu le PSG à Tel Aviv, il y avait le trophée des champions. Mais on va dire, c'était pas contre une équipe israélienne, et puis c'était pas en Ligue des Champions. Donc pour les Israéliens, voir un tel match aujourd'hui, il y a une excitation qui est absolument phénoménale. Et effectivement, voir le Maccabi Haïfa jouer en Ligue des Champions contre Messi, Neymar et Mbappé, toutes les stars de l'équipe, il y a un engouement qui est incroyable en Israël. Et je peux vous dire que l'ambiance va être chaude et que le stade sera plein à craquer.
Plein à craquer, oui.
Ça se ressent dans quoi, justement, cet engouement ? C'est dans les médias ? C'est même dans la rue, des gens avec des maillots d'Israël, du PSG, pardon ? Ça se ressent comment ?
Alors, on voit de plus en plus de maillots du PSG en Israël, hein, les Messi et autres, notamment chez les enfants. Mais ce qui est quand même assez incroyable, c'est qu'on a même vu à la télé des joueurs du Maccabi Haïfa déjà préparer le terrain pour pouvoir échanger les maillots avec les grandes stars parisiennes. Donc il y a une vraie admiration aussi de la part des joueurs israéliens, puisqu'ils vont rencontrer quand même des joueurs assez exceptionnels et les joueurs eux-mêmes sont fans de cette équipe.
Ouais, j'espère juste pour eux que ce sera pas comme ce qu'on avait connu avec c'était la Dream Team de basket où les joueurs les adversaires, bon, on va peut-être pas comparer la Dream Team des États-Unis de Barcelone avec le PSG ni de cette année ni d'une autre année, mais c'est vrai qu'ils arrivaient en victime et la seule chose qu'ils attendaient c'était une photo et un autographe. On imagine bien sûr que les joueurs de Haïfa doivent être bien excités à l'idée de jouer ce match. Ils ont fait la semaine passée une bonne première mi-temps, ils avaient réussi à bien bloquer Benfica avant de craquer. Allez, mouillez-vous un peu. Est-ce que vous avez quel est votre pronostic ? Est-ce que vous pensez que Haïfa, dont on rappelle quand même qu'il est une bête noire du Paris Saint-Germain, puisque il avait éliminé le PSG en 1998 à la surprise générale, est-ce que vous pensez qu'ils peuvent rééditer le coup ou en tout cas faire une performance mercredi ?
J'y étais à ce match en 1998. Donc c'est peut-être un signe.
C'est peut-être un signe pour eux. C'est peut-être un mauvais signe pour le PSG.
Voilà. Exactement. Mais non, Bah, je crois qu'ils ont quand même une bonne équipe et même si je disais qu'effectivement les joueurs sont très admiratifs du PSG, mais ils ont des supporters extrêmement chauds qui leur rappelleront voilà qu'il faudra mouiller le maillot et gagner le match. Moi je pense que le Maccabi va jouer ce match à fond, ils ont leur chance. Voilà, on ne sait jamais. Un miracle est toujours possible, mais bon, c'est vrai que sur le papier, a priori, le PSG devrait remporter ce match.
Oui, a priori. Bon, bah, en tout cas, le Maccabi Haïfa a été, je ne sais pas si on peut dire qu'il a été gâté au tirage au sort. Peut-être qu'ils auraient voulu avoir un groupe un peu moins difficile pour pouvoir espérer progresser dans la compétition. En tout cas, là, vous allez avoir en Israël 3 affiches de rêve face donc au PSG, à la Juve et à Benfica, hein, des grands noms du football européen. Ça va être les exploitants du stade Samy Offer doivent se frotter les mains. On a entendu des prix de billets au marché noir qui étaient assez hallucinants. J'ai entendu parler de plusieurs dizaines de milliers de shekels, ce qui fait plus de 5-6 000 euros pour une place.
Oui.
C'est pire que le Super Bowl, ça.
Oui, c'est pire que le Super Bowl.
Effectivement, les prix sont complètement dingues. On voit ici et là des gens qui vendent leur place pour des 7 000, 8 000, 9 000 shekels. Ça paraît complètement fou, mais effectivement, l'engouement est là. Et d'ailleurs, du côté parisien aussi, hein, parce que vous savez qu'il y a un fan club du PSG en Israël, et je fais partie de ce club. Et figurez-vous qu'il y a eu plus de 4000 demandes, donc des supporters du PSG basés en Israël. Oh. Alors, il y a eu 800 places qui ont été attribuées. Mais rendez-vous compte, hein, ouais, 4000 demandes. Pour ce match.
Bon ben en tout cas, il va falloir pousser de la voix puisque les Parisiens de Paris ne seront pas là. Oui, Alex.
Après, ça veut dire que le city marketing que le PSG met en place en Israël, justement, ça porte ses fruits pour le club en tous les cas.
Ouais, c'est vrai que ils ont la chance d'avoir une base de francophones importante. Ils sont venus jouer effectivement, comme Philippe le rappelait, deux fois, une fois cette année, une fois l'année passée, à Tel Aviv dans le cadre du Trophée des Champions. Et c'est vrai que ça. Et puis vous avez Neymar et Messi. C'est vrai que ça attire forcément. Ça attire forcément. Et le PSG, sans ce niveau marketing, s'en sort plutôt bien régulièrement. Ils sont arrivés, je crois. Ils ont dû partir. Peut-être demain. Oui, ils sont partis aujourd'hui, je pense, les joueurs du PSG, ou demain matin. En tout cas, ils sont en route pour affronter le Maccabi Haïfa. Merci beaucoup, Philippe Luzada, de nous avoir accordé quelques minutes pour ce témoignage. Et puis, on notera.
Avec grand plaisir, Samuel.
On notera bien que vous étiez présent lors de la défaite du PSG face à Haïfa il y a 25 ans. Et si le PSG perd encore, peut-être qu'ils viendront vous chercher. Hein.
On se rappellera.
C'est ça. Merci beaucoup.
Merci.
Bonne soirée, bon match.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Voilà, effectivement, il y a beaucoup un engouement assez incroyable, assez fou. En Israël.
Moi, ce qui m'étonne, c'est que les joueurs, maintenant, déjà à la TV israélienne, ils parlent d'avec qui ils vont échanger leur maillot. C'est une très mauvaise approche.
Très mauvaise, ouais.
On l'a bien vu l'année passée, Bruges était très focus pour son match. Ils ont tout donné face à un PSG un tout petit peu amorphe, soyons francs. Mais il n'y avait pas des idées, je vais prendre ce maillot-là, toi tu prendras celui-là. C'était on va se donner à 400% le reste, on s'en fout. Et je pense que cette approche est assez dangereuse pour le Maccabi s'ils ne veulent pas se prendre une dérouillée made in Paris.
Ouais, c'est vrai que quand on voit le PSG dérouler de temps en temps, ça peut faire assez peur. Et si les joueurs du Maccabi ne sont pas à fond, ça risque d'être compliqué.
Sachant qu'il y a quelques joueurs ex-Antwerp.
Oui.
Je pense à Abdoulaye Seck.
C'est vrai.
Et d'autres qui ont de l'expérience dans le championnat belge, qui jouent à Mouron ou à Antwerp et qui se retrouvent face aux stars du PSG.
Mais restons donc sur la Ligue des Champions et restons sur la Belgique et la Ligue des Champions. Qui dit Belgique et Ligue des Champions dit forcément le club de Bruges. Alors, le club de Bruges, la semaine passée, jouait contre le Bayer Leverkusen. Demain, il l'avait emporté 1-0. Je le rappelle, un but de Abakar Sylla juste avant la mi-temps. Super résultat, non ? Parce qu'on disait la semaine passée que moi je faisais partie de ceux qui étaient plus optimistes, mais c'est normal, je comprends que quand on soutient son club, on est dans le pessimisme pour pas forcément s'emballer trop et être déçu. En tout cas, ils ont gagné contre Leverkusen, et ce qui fait que ça les met très bien dans la course à la progression dans la compétition. Ça veut dire soit les deux premières places pour les huitièmes de finale, soit la troisième pour être versée en Ligue Europa, sachant que dans le même temps, l'Atlético Madrid a battu Porto 2-1 et donc est en tête du groupe. Comment tu as analysé, comment tu as trouvé le match de la semaine passée face à Leverkusen?
C'était un match très viril, je trouve.
Ouais.
Pas énormément d'occasions. Leverkusen en a eu, dont une balle dévide par Mignolet sur le piquet.
Ouais.
Et Bruges a eu ses occasions aussi. Je pense que le 1-0, vu les circonstances, vu l'envie, vu l'engouement du club et des supporters et le stade en ébullition derrière, le 1-0 est un tout petit peu mérité, on va dire. Mais je pense surtout pour le football belge, c'est hyper important. Et pour le club de Bruges, car on a déjà dit, ce groupe est très 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 homogène.
Oui.
Les équipes, certes, il y a l'Atlético, il y a le Porto, mais ce n'est pas l'Atlético qui jouera la finale.
Et ce n'est pas le Porto de 2003, ni d'il y a quelques années.
Et Leverkusen, ça reste une équipe allemande qui est assez forte, qui a d'excellents joueurs. On l'a vu la semaine dernière, l'arrière-gauche Bagger, par exemple. Waouh, c'est le gars, il tapait des rushs, tout le monde le regardait passer. Il y a vraiment énormément de qualité. Et en une fois, il marque également deux buts. Sorti de nulle part, certes, il y avait un orteil hors-jeu, mais ça reste une équipe redoutable qui prendra des points dans les prochaines semaines. Donc, pour le club de Bruges, trois points essentiels financièrement, au classement aussi. Maintenant, il faudra voir. Si tu perds tes trois prochains matchs, ça ne sert à rien et tu te retrouveras quand même à la dernière place.
Ouais.
Mais le match à Porto...
C'est donc demain, un déplacement à Porto.
Et comme Karl Lufkens l'a dit là tout de suite en conférence de presse, Porto doit gagner.
Oui, puisque effectivement, tu as raison, ils ont perdu donc leur premier match face à, disons, en tout cas la tête de série du groupe, l'Atlético Madrid. Là, ils seraient dans l'embarras s'ils perdaient face à domicile face à Bruges. Je donne juste les probabilités de victoire qui sont de... c'est pas des cotes, hein, de 68% pour Porto, 13% de la victoire pour Bruges et 19% le match nul. Bon, évidemment, ils sont favoris. Est-ce que, pour autant, Bruges a ses certitudes dans son jeu, en tout cas, connaît sait comment il doit jouer. Et on va voir s'ils réussissent à poser autant de problèmes à Porto et à réussir à enchaîner un deuxième bon résultat.
Ce qui est assez cocasse, j'ai vu les chiffres là tout à l'heure à découvrir sur Sportimize demain.
Ouais.
Le club de Bruges a investi plus en joueurs cet été que Porto. Donc Bruges a dépensé plus de 48 millions, Porto est à 48 millions.
Wow.
Donc c'est assez cocasse quand on voit maintenant, ce n'est plus le club de Bruges ou le champion de Belgique qui a dépensé 8 millions et Porto 60. Là, on est vraiment dans une sorte d'équité financière d'un point de vue investissement.
48 millions, c'est énorme. Enfin, à la mesure des dépenses qui sont habituellement faites en Belgique, c'est vrai que 48 millions, mais ils se sont renforcés sans doute intelligemment parce qu'on sait que le scouting du côté de Bruges est rarement fait les yeux fermés et ils sont plutôt très vigilants sur les joueurs à faire venir. Un petit pronostic.
Après, n'oublions pas, ici le Bruges a déjà empoché 3 millions. S'il gagne encore 3 matchs et se qualifie pour le prochain tour, plus la prime de départ, la Ligue des Champions, tout le mercato estival est remboursé.
Ouais,
et c'est break-even. Et on n'a pas encore compté tous les départs. Donc, ce serait très lucratif comme investissement.
Comme investissement, ouais.
Pronostic 1-1.
1-1.
Espérons-le. J'aime pas pronostiquer, oui. Je déteste le faire et je rate à chaque fois.
Moi aussi.
Mais ce serait bien que le club de Bruges
le
puisse prendre
au
moins un point. Mais ce serait tout aussi bien que les autres équipes. Je pense à Anderlecht qui se déplace au Steaua ou l'Union qui accueille Malmö et la Gantoise accueille également une équipe scandinave. Mais peu importe qui. Mais ce serait très intéressant que les clubs belges refassent la prestation de la semaine dernière. Il ne faut pas oublier, les clubs belges prennent 10/12.
Ouais.
Grâce aux victoires de Bruges, de l'Union, d'Anderlecht et le match nul de la Gantoise. Et surtout, la petite stat qui est passée inaperçue, c'est que il y a 4 clean sheets.
Ouais. C'est vrai que c'est...
Et c'est très intéressant parce que ce n'était pas arrivé depuis très très longtemps que quatre équipes belges fassent quatre clean sheets. C'était arrivé en 2019, je pense, lors d'un match nul de Bruges face à l'Atlético 0-0 et quand Genk était aussi en Ligue des Champions. Mais avant ça, il faut aller chercher très très loin. Donc espérons qu'on puisse remettre ça cette semaine pour le bien du football belge, car c'est essentiel.
Absolument,
pour
oui, on en avait parlé souvent que la Belgique est menacée de perdre les places, certaines places, notamment la place directe en Ligue des Champions. Et donc tous les clubs belges se doivent d'être performants cette saison. La Gantoise jouera Shamrock Rovers. Demain, non pardon, jeudi, rien à voir. La Gantoise, c'est la Ligue Europa Conférence. Plutôt, en parlons un instant d'Anderlecht en Coupe d'Europe. C'est vrai qu'on avait dit en rigolant au moment du tirage au sort que ça avait des allures de match des années 80. Effectivement, ils ont joué Silkeborg lors du premier match et ils vont jouer le Steaua Bucarest. C'est plus au niveau que ça. Non, on va pas.
Ben, au niveau, le Steaua était une belle équipe. C'était toute l'équipe internationale roumaine qui évoluait là. Donc,
oui, ils ont.
On pense à des Petrescu, des.
Ils ont.
Pescu, Dimitrescu.
Adi. C'est ça.
Quelle belle équipe.
Ouais,
mais
ouais.
Non, là, ça reste le champion de Roumanie. Ça reste une belle équipe, ou presque le champion. En tout cas, dans le top 3, sinon, il serait pas en Coupe d'Europe. Ça reste une belle équipe, mais. Au niveau belge versus roumain d'aujourd'hui, je pense qu'Anderlecht doit toujours gagner. Après, c'est un enfer d'aller jouer là-bas. Des supporters sont acharnés. Et je crois me souvenir qu'il y avait quelques matchs dans les années 80 et 90 entre les deux équipes qui tournaient à l'avantage des mauvais blancs. Mais je ne pense pas qu'ils l'ont oublié là-bas. Donc, c'est un beau match en perspective. C'est une belle affiche aussi.
C'est une très belle affiche. Voilà donc pour les clubs belges. Revenons un peu sur les autres résultats de la Ligue des Champions de la semaine passée et surtout la perspective de ce qui va se passer cette semaine à partir de demain. On l'avait vu, City a marché sur Séville, une connexion qui est de plus en plus belle entre Erling Haaland et Kevin De Bruyne. Manchester City a fait vraiment une belle entrée dans la compétition, ce qui n'a pas été le cas d'autres clubs anglais, puisque Liverpool a sombré à Naples, 4-1, et que Chelsea a perdu à Zagreb face au Dynamo, ce qui a coûté sa place à l'entraîneur Thomas Tuchel, pourtant vainqueur de la Ligue des Champions il y a 14 mois avec Chelsea. Les choses tournent assez vite. Le Barça, bien sûr, s'est imposé facilement face à Victoria Plzeň. Et le match au sommet, celui qu'on attendait entre deux mastodontes, c'était l'Inter face au Bayern. Et les Allemands l'ont emporté 0-2. Cette semaine, un gros match Bayern contre Barça. Le Barça, on l'a vu très bas, très mal il y a quelques mois. Il revient. Il semble revenir en tout cas, malgré en coulisses pas mal d'agitation, les joueurs qui n'ont pas pu être inscrits et puis finalement inscrits, les joueurs à qui on demande de baisser leur salaire pour pouvoir justement faire de la place pour les autres. Malgré tout ça, ils jouent plutôt très bien, mais là ils vont affronter ce qui se fait quasiment de mieux, le Bayern à Munich. Alors le Bayern a fait match nul. De manière un peu surprenante ce week-end, le Barça lui l'a emporté. Ça, même si le Barça semble bien en ce moment, je donnerais quand même l'avantage au Bayern, non ?
Probablement, oui. Après, Bayern-Barça, ça me fait penser à ce fameux 8-2 durant une certaine période Covid, que l'espace d'une soirée, tous les amateurs de foot ont complètement oublié tous les problèmes et ont pu vivre dans une bulle 90 minutes de football. Mais le Bayern est normalement un cran au-dessus du Barça. Ils avaient bien commencé l'année. Là, ça patauge un tout petit peu en championnat depuis deux semaines.
Ouais.
Mais le Bayern reste le Bayern. Et pour une affiche comme ça, il ne faut pas motiver les joueurs bavarois.
Ouais, ça va être, c'est vraiment l'affiche de, de cette deuxième journée, avec aussi un alléchant sur le papier. On espère qu'ils vont retrouver leur jeu. Liverpool-Ajax. Liverpool,
est-ce que le match aura lieu ?
Est-ce que le match aura lieu ? Bah, déjà.
Ça, c'est la première question et c'est la première chose que
normalement,
qui me surprend.
Ouais.
C'est qu'en tout cas, Arsenal-PSV ne devrait être annulé. Ou PSV-Arsenal, un des deux.
Alors, je sais qu'en tout cas, le match des Rangers. C'est le match des Rangers contre Naples sera reporté du 24 heures parce que le cercueil de la reine se trouve
sur le terrain.
Ouais, non, pas sur le terrain, mais je crois qu'il se trouve en ville et donc il y aurait une difficulté à assurer la sécurité de tout le monde. D'ailleurs, les supporters napolitains ont été enjoints de ne pas se déplacer, ils ne se déplaceront pas, mais pour assurer l'équité. Les supporters des Rangers ne se déplaceront pas à Naples pour le match retour.
Ce qui est dommage pour tout le monde.
Mais
qui perdent énormément d'argent, surtout vu la ferveur des clubs respectifs. Après, au-delà de ça, en Europe, je pense qu'on comprend très mal l'importance qu'avait la reine d'Angleterre. De là à annuler tous les événements sportifs pendant 10 jours presque, c'est totalement inouï dans l'histoire, en fait.
Ouais. Et puis surtout, c'est vrai que c'est ce qui est amusant d'une certaine manière, c'est qu'on est dans une période où on tout va très vite, on en rajoute, il y a des matchs, de plus en plus de matchs, on essaie de tout comprimer. Et puis là, on est rappelé d'une certaine manière à la réalité. En tout cas, il y a en Angleterre ou en Grande-Bretagne quelque chose qui semble supérieur, plus important que tout ça. C'est
une réalité très coûteuse parce qu'il y a certains clubs que tout est déjà organisé. Je pense au match qui avait lieu ce week-end.
Ouais.
Il y a certains clubs, ils ont perdu plus d'un million parce que toutes leurs commandes avaient été effectuées. Tout ce qui est VIP, nourriture, organisation, etc., ticketing, ce sont des pertes sèches pour les clubs. Et encore plus, la Ligue de cricket avait un match contre l'Afrique du Sud. Ils sont assurés pour l'annulation des matchs, mais pas en cas de décès de la reine. Donc c'est très embêtant parce que ça leur coûte 4 millions quand même.
Quand même, ouais. C'est vrai qu'il y a eu une petite polémique. Alors je ne pense pas que ça ait enflé plus que ça parce qu'il y a un respect pour la reine, pour la monarchie, et qu'actuellement, tout le monde reste plutôt tranquille. Mais en tout cas, il y a des voix qui se sont fait entendre, comme celle de Gary Neville ou de Peter Crouch, qui regrettaient que les matchs aient été reportés. Non pas parce qu'ils n'en ont pas grand-chose à faire de la monarchie, non, mais parce qu'ils auraient trouvé que ça aurait été un très bon moment, une très bonne occasion de rendre hommage à la reine avec le public qui aurait chanté le God Save the Queen, les minutes de silence émouvantes. Bon, il a été pris une autre décision, plus dans le respect du protocole sans doute.
Oui, ça reste un drôle de protocole parce que tout le monde est organisé pour que les matchs aient lieu et l'argent qui tourne autour, c'est quand même c'est fascinant, je trouve, qu'on ait tout annulé. Finalement, pour un décès qui n'est pas si inopiné. Enfin,
oui, c'est pas effectivement ça.
Sans rentrer dans les détails, voilà. On pouvait s'y attendre que ça puisse arriver. Par contre, ce qui était amusant, entre guillemets, c'est que les clubs ont spontanément réagi sur leurs réseaux sociaux. Tout le monde a changé les blasons Facebook, Twitter, Instagram en un blason noir et blanc, sauf le Celtic.
Ah.
Qui a gardé ses couleurs. Ils ne sont pas très
monarchistes,
visiblement.
Oui.
Et tous les commentaires sur les réseaux sociaux étaient assez amusants à voir aussi. Et j'ai l'impression que la plupart des fans de foot ne comprennent pas cette décision, justement. Sans parler encore des gens qui se déplaçaient spécialement qui avaient déjà booké des avions depuis longtemps ou des Eurostars pour voir un match et un hôtel, etc. Et que du jour au lendemain, tout est annulé ou qu'ils sont même sur place. C'est vraiment très embêtant. Et je doute qu'ils aillent saluer la reine à la place.
La reine qui avait un rapport, j'aime bien faire des liens, un rapport particulier avec le football. Enfin, je ne sais pas si elle avait un rapport tout à fait particulier. Elle a remis la Coupe du Monde en 1966 aux Anglais lorsqu'ils l'ont gagnée. Mais j'ai fait mes petits calculs. Il me semble qu'à part 4 Coupes du Monde, celles de 30, 34, 38 et 50, eh bien elle était reine pour toutes les autres Coupes du Monde. Donc depuis la Coupe du Monde 54 jusqu'à la Coupe du Monde 2018, elle aura toujours été elle aura toujours régné pendant il y a eu quoi 20.
Par contre, elle était vivante pour chaque Coupe du Monde.
C'est ça.
Sauf la prochaine, demain trop tôt.
Exactement, c'était à pas grand chose. Mais c'est vrai que moi personnellement, j'aurais bien aimé pouvoir voir cette journée de championnat, parce qu'il y a toujours une émotion qui est forte, qui est grande. Mais bon, voilà. Tu parlais des éventuels reports. Moi, je pense qu'il n'y en aura pas. C'était possible de l'imposer d'une certaine manière en Angleterre. En revanche, remettre tout en cause en Ligue des Champions, donc c'est au niveau européen, je suis pas certain.
Mais il y a encore une institution qui est encore plus haute que la monarchie, c'est l'UEFA.
C'est l'UEFA, exactement. On n'est pas
inquiet. Et c'est surtout la Ligue des Champions. L'Europa League, à la rigueur, on s'en fout un petit peu.
Mais la Ligue des Champions, l'étendard, là, on n'a pas de, il y a pas de doute, non, c'est vrai. Donc demain, on commence avec Porto Bruges à 21h. Regardez Porto Bruges, hein, si le club de Bruges mène 0-3 à la mi-temps, vous pourrez aller sur Bayern-Barça, mais non, s'il mène 0-3 à la mi-temps, vous voudrez absolument voir la fin du match. Les autres matchs de demain, l'Olympique de Marseille, cher à Blaise van der Linden, affrontera l'Eintracht Francfort. Également, Leverkusen, donc, qui reçoit l'Atlético Madrid dans le groupe de Porto. Et puis, comme on l'a dit, Liverpool-Ajax demain 21h et Sporting-Tottenham 18h45. Là aussi un beau petit match en perspective. Je suis pressé de voir ça. Et je vous le disais, c'est les Rangers le match des Rangers a été repoussé de 24h. Donc il n'est pas en même temps que celui... des autres, non, je vous dis une bêtise parce que Liverpool. Si, c'est ça, pardon, non, je ne dis pas de bêtises. Liverpool-Ajax se joue donc demain et normalement tous les matchs se jouent le même jour, les matchs d'un même groupe. Et là, Rangers-Naples aura lieu mercredi à 21h. Après, Real, la Juve, tiens, la Juve, on les a vus. Moi, j'ai regardé le match contre le PSG. Le PSG a dominé, marché sur l'eau, a fait vraiment une excellente première mi-temps comme je l'ai rarement vu faire. Enfin, rarement. Ça faisait longtemps. Et puis, ils ont fait du Paris Saint-Germain, c'est-à-dire que je ne sais pas ce qui s'est passé dans le vestiaire. Ils sont revenus en trottinant. Et la Juve, qui n'existait pas, est redevenue un petit peu dangereuse. Les Turinois ont connu des problèmes ce week-end encore. Ils ont fait match nul. Ils vont recevoir Benfica.
Presque gagné. Quand
même. Ouais, c'était assez dur. Une erreur visiblement flagrante. En tout cas, il y a un hors-jeu qui n'y était pas et qui a été signalé avec de la mésaventure terrible. Je voudrais la signaler parce qu'elle est assez dure. Pour Milik, l'ancien Marseillais prêté à la Juve, Milik marque ce qu'il croit être le but de la victoire en toute fin de match. Il retire son maillot ça c'est vraiment il faudra aussi qu'on m'explique ce qui passe dans la tête des joueurs. Je comprends qu'on soit heureux, mais quand on sait que ça aboutit forcément à un carton jaune, pourquoi le faire? Surtout quand vous avez reçu déjà un premier jaune, ce qui était son cas. Ce qui fait qu'il a marqué, il a sauté de joie, il a enlevé son maillot, il a pris un jaune, qui lui a donc donné un rouge, et puis l'arbitre a été appelé et on lui a dit non, il y a hors-jeu. Donc, et par contre, là, le rouge n'a pas été retiré, il n'a pas été enlevé.
Ce qui est assez étrange d'ailleurs.
Alors oui et non, parce qu'il y a eu la même chose le match du PSG contre Brest où il y a un joueur brestois pardon qui il y a oui il y a une faute l'arbitre il y a un joueur, c'est ça, il y a une faute d'un joueur brestois qui prend un deuxième jaune et donc un rouge. Il y a un autre brestois qui vient s'en prendre à l'arbitre en étant dans des mots sans doute pas très corrects, il prend un jaune. Puis l'arbitre revient, on appelle l'arbitre pour lui dire qu'il y a eu une erreur et qu'il y avait effectivement hors-jeu. Et donc, il revient sur la faute qui a entraîné un carton rouge. Il va dire au joueur, vous n'avez pas le carton rouge. On oublie, vous restez à carton jaune. En revanche, celui qui est venu s'en prendre à l'arbitre en lui parlant mal...
C'est différent.
Il a pris son jaune.
C'est différent parce qu'ici, il y a une, oui, tu vas me dire, il y a une corrélation aux deux, mais la corrélation est je marque, le but doit être toujours validé, j'enlève mon maillot, je suis conscient que je prenne la jaune et je serai exclu, mais ce sera 3-2. Ici, s'il met la tête à côté, il n'enlèvera pas son maillot, mais l'action sera la même.
C'est vrai. Mais je pense que l'UEFA, les instances dirigeantes veulent qu'on respecte une certaine éthique et de la même manière que. Voilà, en toutes circonstances, on n'a pas à aller houspiller l'arbitre, même s'il a fait une erreur, comme c'était le cas.
Mais si, c'est pour enlever son maillot.
Oui, mais je veux dire par là que le carton jaune qui n'a pas été retiré au Brestois, c'est parce que les mots de Lesmelou, il s'agit de lui, les mots qu'il avait dit à l'arbitre, on ne les retire pas. Il a insulté l'arbitre, qui a eu but ou pas but. Un peu comme Kimpembe, on n'a pas le temps d'en parler, mais c'est un scandale.
Malheureusement.
C'était d'ailleurs, je ne sais pas si tu as pu écouter, c'est très bien. Ils ont fait un petit montage avec le son donc, de l'arbitre du match Paris Saint-Germain-Brest, avec les images, donc c'est toujours très, très intéressant. Hein,
on va conclure là-dessus. Moi, ça fait 20 ans, même plus que 20 ans, que je trouve que les arbitres devraient avoir un micro et qu'on peut, en régie, mettre en direct ce qui se dit au lieu des commentaires. Et on avait vu sur France Télévisions au début des années 2000, quand, et même fin des années 90, où tu avais la Coupe de France et la Coupe de la Ligue, tu avais Pascal Pro qui était limite sur le banc des entraîneurs pour poser des questions en deuxième mi-temps. Je trouve ça rapproche les supporters du jeu, du foot, de ce qui se passe, et ça permet aussi aux joueurs de ne pas dire n'importe quoi, et aux arbitres non plus.
C'est vrai, et là je ne sais pas si Kimpembe était au courant que l'arbitre était équipé d'un micro. S'il l'était, il est d'autant plus bête. Mais s'il n'était pas au courant, il aurait dû faire attention et ne pas parler comme il a parlé à l'arbitre. Voilà, on arrive au bout de cette émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci Alex pour ton expertise et pour avoir été avec moi ce soir. On vous souhaite à toutes et à tous une très bonne semaine, une bonne semaine de football et de plein d'autres choses. Portez-vous bien et à lundi prochain. Au revoir Alex.
Bonne soirée.
Hey, oh, c'est pas bientôt fini, tout ce boucan, ce vacarme, y'en a qui dorment la nuit. Pas moi, rien d'arrêter les rêves partis dans mon crâne. Ni le marteau piqueur dans mon cœur. J'ai pas fermé l'œil de la nuit, c'est pas l'envie qui manque, c'est le manque qui s'impose. Pas ma dose, plus de concert, paraît qu'on sert plus à rien. V'là l'insomnie qui revient. Eh ben tant pis, youpi, que dansent mes nuits blanches et mes idées noires. Et si l'espoir brille par son absence. Lady Child, j'ai perdu le sommeil mais t'inquiète. Lady Child, j'ai gardé le soleil dans ma tête. Et si le monde a les ailes tombées, quand on voit ce que ça donne, soit plongé dans le noir. Peut-être qu'il nous faut s'apprendre.